pas qu'au Guignol qu'il y a des planches. Il y en a aussi dans ces coins-là.
Et ces pauvres gens qui font la queue pour mieux pousser les fleurs des champs se font de trous dans leurs beaux yeux et de leurs lèvres font des dents pour mieux voir ce qu'on ne voit pas.
Pour mieux baiser le rien de rien
et rendre leur dernier repas celui dont ils n'ont plus besoin.
La musique inouïe.
Caravane à maximum.
Sa gueule, sa gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pain, vive le soleil. Vive
les oreilles.
Libre.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne, partout ailleurs dans le monde entier, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières, mais aussi aux autres formes de création curieuse, originale. Et ça va être le cas aujourd'hui, puisqu'on va parler de cinéma, et plus précisément de livres sur le cinéma. C'est Yves-Marie Mahé qui va animer l'émission. Yves-Marie, je te laisse la parole pour présenter nos invités.
Ben bonjour, on reçoit donc Pierre-Julien Marest, qui est éditeur et essayiste désormais, et Séverine Danflouze, qui est romancière et critique de cinéma. Ils ont coécrit tous les deux un livre sur le chorégraphe et réalisateur des années 30, Busby Berkeley, l'homme qui fixait les vertiges. Et on va évoquer également la maison d'édition Marest, donc la maison d'édition de Pierre Julien, qui est une maison indépendante, spécialisée dans les ouvrages de cinéma et de littérature. Littérature sur le cinéma, mais pas uniquement, même si souvent, c'est souvent inspiré par le cinéma. J'ai peut-être commencé par te demander, Pierre Julien, pourquoi ce choix de Baudidelet ?
Alors, Baudidelet, j'ai découvert ça le week-end dernier dans un docu sur le Velvet Underground, réalisé par Todd Hayes et deux monteurs. C'est quand même une œuvre de montage, un très très bon docu. On voit Mekas, Jonas Mekas, Warhol évidemment, mais qui recontextualise très bien le Velvet. Et il y a ce truc qui passe, Baudidelet, au beau milieu. J'étais fasciné par ce mec que je connaissais pas. Roadrunner, bon, c'est bip bip, mais ça va être aussi une chanson des Modern Lovers de Jonathan Richman. Et que Greg Marcus, dans les Psychtresters, identifie un peu comme un des pères du punk. Et moi, j'ai vu une filiation entre le Roadrunner de Baudidelet et le Roadrunner de Richman. Et voilà, j'étais fasciné par ce truc assez punkabilly, assez dingue, de 60. Je connaissais pas du tout Baudidelet, j'ai voulu partager ça, quoi. Voilà, c'était ma petite découverte de la semaine dernière.
Et t'as souvent des coups de cœur musicaux, comme ça ?
Rarement, oui, ouais, oui, ouais. Si, ouais. Je prends des trucs et puis je les écoute à fond pendant deux semaines et puis je passe à autre chose.
Oui, un des derniers, c'était, je sais plus comment ça s'appelle, ce que Nicole de la Fémis nous avait fait écouter là.
Ah oui, dans Sommeil, une chanson vraiment pourrie qui était dans un Sommeil, deux chanteurs japonais complètement nuls. Qui chantent comme des casseroles, mais j'ai trouvé ça très cool. C'est souvent plus intéressant d'écouter des gens qui chantent comme des casseroles que des gens qui chantent prétendument bien. Ouais. Ça doit être mon côté un peu punk. Mais ils chantent tellement mal que... Ils chantent vraiment très très mal. Et bon, c'est le genre de truc que j'aime écouter, quoi.
Et donc, ce que je disais sur les éditions Marest, ça te paraissait juste que... Parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est assez rare... Enfin, le sous-titre cinéma et littérature.
Oui, bah c'est né un peu par hasard. Au début, ça devait être du cinéma, des mémoires de cinéastes. Il y a eu deux rencontres avec Séverine, qui avait un roman pour une platine où le cinéma avait une place très très importante. Ce qui faisait que ce roman était d'ailleurs refusé par d'autres éditeurs qui demandaient il faut couper le cinéma. Qui lui demandait de couper le cinéma. Et moi, quand elle m'a envoyé son texte, je lui ai dit, il faut surtout pas couper le cinéma. C'est ça qui m'amusait aussi. Et donc, elle a rencontré avec Séverine, elle a rencontré avec un auteur, Luc Chomara, qui avait fait un essai qui était entre l'essai et la fiction, les 10 meilleurs films de tous les temps, qui est l'histoire d'un père qui dresse la liste des 10 meilleurs films de tous les temps pour son fils. Ça va très vite vers l'humour absurde. Au début, le type est persuadé que tous les 10 meilleurs films de tous les temps ont tous été réalisés par Ozu. Puis il se souvient de Tarkovsky quand même, parce que Tarkovsky, c'est bien, c'est génial, c'est chiant, et plus c'est chiant, plus c'est génial. Lui, il le dit bien mieux que moi. C'est son point de vue. Et au bout d'un moment, il se souvient avoir été marqué par une couverture d'un magazine quand il était ado, d'un film de Mario Bava, Le Masque du Démon avec Barbara Steele. Je crois que c'est dans celui-là qu'il y a une verge de fer. Il se dit, j'ai jamais vu ce film, mais il fait forcément partie des 10 meilleurs films de tous les temps. Donc voilà, c'est un peu sur l'absurdité des listes, sur la cinéphilie et les goûts bizarres qu'on peut avoir, aimer autant Bava que Argento, que Tarkovsky, qu'Ozu, et les mettre d'une certaine manière à côté dans une espèce de cinéphilie amoureuse.
Et en même temps, c'est une analyse très très fine de Tarkovsky et Ozu. Ça, c'est très brillant.
Oui, en même temps, il y a des lignes sur Ozu qui sont absolument géniales, et sur Tarkovsky aussi.
Très juste en plus.
Ouais. Voilà.
Et j'ai l'impression qu'en fait tes références pour cette maison d'édition sont pas forcément c'est pas forcément tu t'es pas dit que ça devait ressembler à d'autres éditeurs de cinéma en fait.
En fait j'ai J'ai toujours une phrase de Pauvert, de Jean-Jacques, de l'éditeur Jean-Jacques Pauvert en tête, qui disait, alors je cite de mémoire, mais pour devenir un bon éditeur, faites ce que les autres ne, publiez ce que les autres ne font pas. Ça a toujours été ma ligne de conduite. Derrière vous, il y a une affiche ni Dieu ni maître. J'aime beaucoup. Et de toute façon, oui, c'est pour faire la même chose que les autres. On s'ennuie assez vite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la recherche, entre guillemets, une maison d'édition un peu laboratoire, où on tente des trucs, quitte à se planter parfois, mais on essaye de faire des choses différentes, pour envisager le monde de manière différente, pour porter un regard différent sur les choses.
Et chercher des voies aussi différentes.
Oui, chercher des voies différentes, des regards différents, et les mettre en valeur. Parce que sinon, c'est le formatage qu'on trouve partout. C'est le formatage de l'industrie culturelle. On fait plus que des produits culturels qui se ressemblent tous de plus en plus, qui sont de plus en plus lisses. Et c'est un peu la mort de l'art, la mort de la liberté pour moi, ça.
Parce que je suis tombé il y a pas longtemps sur un entretien avec Henri Verrier, enfin un vieil entretien qui date de 91. Enfin, l'éditeur Henri Verrier, qui disait que lui, pour lui, c'était d'abord faire des ouvrages exhaustifs, c'est-à-dire prendre, c'est-à-dire que si l'ouvrage était sur un acteur ou un réalisateur, on montait du début de sa carrière jusqu'à la fin de ses films, une analyse film par film, et tout. C'était jamais le cas dans aucun des ouvrages que t'as publié, je pense.
Si, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu le Bourman de Michel Simon. Qui était une deuxième édition. C'est un livre qui est paru en 85 chez Kalman. Et entre-temps, la filmographie de Bourman avait doublé. Et Michel, c'est un bouquin assez remarquable là-dessus, parce que pour chaque film, il y a un résumé, il y a une analyse et il y a un entretien avec Bourman. Pour moi, c'est un des livres les plus complets sur un cinéaste. On a publié ça. Il y a eu le billet de Vincent Roussel aussi, qui revient sur tous les films.
Richard Fleischer,
oui, la monographie sur Fleischer, qu'on avait publié en même temps que les mémoires de Fleischer.
Mais ce que recherche Pierre-Julien, c'est aussi qu'il y ait une écriture, quoi, que ce soit pas juste une monographie informative ou documentaire, mais qui est vraiment un regard et aussi une voix qu'il apporte, enfin une écriture singulière.
Une singularité, ouais.
Oui, c'est vrai qu'il y a des partis pris très forts. Je pense aux Démons de William Friedkin, où tous les films sont vus sous. Quelle serait la ouais. Quel rapport aux démons dans chacun de ces films.
Là, on était sur un essai, effectivement. Et oui, avec un ton un peu punk par moment, un peu sec, un peu violent, un peu exalté. C'est ça qui avait motivé la publication de cet ouvrage.
Et on les reconnaît facilement, les ouvrages.
Oui, voilà, parfois je songe à changer de charte graphique, mais en même temps, je me dis c'est bien, parce que quand on va en librairie, on sait direct où ils sont. Le dos, à chaque fois, il y a du bleu Tiffany sur le dos. La couverture est noire, c'est ça qui m'embête un peu. J'essaie de mettre de plus en plus de couleurs sur les couvertures pour qu'elles soient pas trop sombres.
Le sigle de l'obturateur, c'est utile aussi quand même.
Oui, je voulais un truc qui, en plus c'est une image après que j'ai retrouvée qui est chez Ziga Vertov. Je voulais un œil qui se confonde avec un objectif de caméra et en même temps une idée de spirale d'ouverture à l'iris, quoi. Donc un iris de caméra comme d'un œil humain. C'est ce que je cherchais comme logo.
Et c'est très original aussi les dos de couverture. Enfin,
Ouais, c'est
énigmatique.
Oui. Ça, je me suis inspiré des éditions Alia, que j'aime beaucoup, où à chaque fois il y a des quatrièmes très très courtes, très rapides. Souvent je mets de l'humour là-dedans, ou des trucs, on se demande qu'est-ce que c'est que, quel est le rapport entre la quatrième et le livre. C'est toujours généralement des passages extraits des textes. Donc oui, c'est une espèce de forme d'humour.
De provocation.
Et de provocation. Parfois.
Et Séverine, t'as publié 4 livres, hein, au moins, chez, aux éditions Marest.
Ouais.
Il y a 2 romans, alors que je n'ai pas lu, mais qui portent sur les relations amoureuses, je peux comprendre.
Oui, c'est ça. Brune Platine, donc, qui est une histoire d'amour entre un apprenti réalisateur et une apprentie actrice, et ça se situe à la Cinémathèque, enfin ça se passe à la Cinémathèque, ils travaillent tous deux à la Cinémathèque, mais, et donc ils parlent la langue du cinéma d'une certaine façon, et le projet du réalisateur c'est de réadapter l'Odyssée du point de vue de Pénélope. Donc voilà, ça la séduit beaucoup et elle se dit qu'elle pourrait faire une bonne Pénélope. Donc c'est un peu, ça part de là. Et S'abandonner, c'est l'histoire d'un homme qui fait du documentaire et qui est abandonné par celle qu'il aime, enfin qui est quittée, et qui du coup va enregistrer les voix de femmes esselées et abandonnées. Et, en fait, ça part un peu... d'Ovide et les esselés d'Ovide. Donc, y a à la fois de l'antiquité et du cinéma, enfin, il y a de la littérature et du cinéma dans les livres littéraires, enfin, les romans que j'écris, quoi. Voilà.
Et il y a aussi 2 essais.
Et, oui, et après, par ailleurs, effectivement, j'ai écrit 2 essais, enfin, j'ai co-écrit un essai avec Pierre Julien sur Busby Berkeley, dont on va parler après, et sur Tennessee Williams. C'était un rêve d'enfant, c'était, enfin d'enfant, d'adolescente, n'exagérons pas non plus. J'avais, je sais plus, 14 ans ou quelque chose comme ça, et je lisais les pièces de Tennessee Williams parce que j'avais vu les films avant et que j'avais été bouleversée par Natalie Wood courant sous la pluie dans Propriété interdite de Pollack, par Vivien Leigh à la fin d'Un tramway nommé Désir, ou Anna Magnani dans L'homme à la peau de serpent. Et du coup, j'étais tellement fascinée par ces figures de femmes, voilà, ce théâtre excessif de Tennessee, sauvage, enfin j'ai appelé ça sauvage, de Tennessee Williams, et le lien à l'animalité, enfin plein de choses qui me séduisaient, me fascinaient. Et comme ça passait aussi par le cinéma, très jeune, je m'étais dit, ce serait bien de réfléchir sur comment Tennessee Williams a été adapté à l'écran, et ou d'écrire là-dessus. Et je rêvais en fait de lire ce livre, enfin un livre sur cette question-là, disons. Comme il est jamais, il y en a jamais eu. Oui, il y en a jamais eu en France, en tout cas. Hein, aux États-Unis, il y a 2-3 études sur les, mais des choses assez universitaires globalement, mais voilà, ça existe. En France, il y avait rien sur les adaptations cinématographiques de Williams. Il y en a 17. Donc, je me suis dit, voilà, je vais le faire moi, puisque ça me passionne et que. Donc, Pierre Julien m'a suivi sur cette je sais pas si on peut dire aventure, mais il m'a suivi dans ce projet, et voilà. Et voilà comment il est né, ce Tennessee Williams, l'écran sauvage.
Et donc, vous avez écrit aussi, donc, co-écrit tous les deux Busby Berkeley, L'homme qui fixait les vertiges. On va parler, dans pas très longtemps. On va peut-être écouter un morceau en lien avec l'essai.
Oui, parfait.
Ce serait...
Idéal.
Oui, mais alors quel morceau?
Pardon.
Et peut-être que vous pouvez introduire.
I only have eyes for you.
Ouais, c'est dur à dire. Hein. I only have eyes for you.
C'est dur à dire.
Il y a des phrases plus faciles à dire.
Et donc, c'est la bande-son d'un
C'est un film de 34, d'Ames, de Ryan Wright et Busby Berkeley. Je précise juste que toutes les séquences musicales ont été intégralement réalisées par Berkeley. Ryan Wright s'étant occupé du reste du film, qui est beaucoup moins bien.
Qui est un peu poussif, voilà, on va dire.
C'est pas un bon film, à part pour les numéros musicaux qui sont absolument dingues.
Exceptionnels.
Et dans celui-là,
il s'appelle Dames.
Voilà, ça s'appelle Dames. Et dans celui-là, il y a l'actrice fétiche de Berkeley, Ruby Killer, qui danse qui danse dans une espèce d'espace noir avec de grands escaliers blancs, des escaliers un peu impossibles comme ceux du Piranèse, et elle se retrouve une parmi 50 sosies, 100 sosies d'elle. Donc son image et l'image de Ruby Keller est répétée à l'écran. Elle apparaît en gros plan. Enfin, à un moment, toutes les danseuses qui donc ressemblent comme deux gouttes d'eau à Ruby Keller s'assemblent, lèvent des espèces de pancartes qui forment le visage de Ruby Keller. Et là, la caméra se concentre sur l'œil de cette image de Ruby Keller. Et Ruby Keller sort de son propre œil. Un peu comme Athéna du crâne de Jupiter. Enfin, c'est des trucs complètement déments, complètement dingues. En très peu de plans, c'est très rapide. Il faut vraiment le... On a essayé de le décrire dans le livre. On a passé du temps, mais il faut vraiment le voir parce que c'est vraiment ce morceau qui a motivé l'écriture de cet ouvrage. Quand on a découvert ça, je me suis dit, mais comment, c'est génial. C'est une perfection formelle. D'un point de vue technique, ça aurait pu être fait hier. Tout est millimétré. Il y a des idées complètement délirantes, complètement assez surréalistes. J'ai vu un morceau de magie cinéphilie de cinéma. J'avais jamais vu. On connaissait déjà Berkeley, mais j'avais jamais vu. Je pensais pas qu'il pouvait aller aussi loin.
Voilà. C'est chanté par Dick Powell aussi.
C'est chanté par Dick Powell.
On peut en trouver un extrait sur YouTube.
Un extrait, voilà. Le numéro d'Ames a été mis en ligne par la Warner. On le trouve en bonne qualité sur YouTube.
C'est comme ça qu'on l'a vu la première fois.
C'est comme ça qu'on... Voilà.
Cet extrait Warner remasterisé un peu.
Il faut taper d'Ames, 34, Busby Berkeley. Normalement, on tombe assez vite dessus. C'est le passage I only have eyes for you.
Eh bien, on va l'écouter.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. On parle des éditions Marest et on vient d'écouter un extrait d'un film de Busby Berkeley. Alors, je me permets de d'épeler Busby, donc c'est son prénom B-U-S-B-Y, Berkeley, B-E-R-K-E-L-E-Y, si vous voulez faire des recherches sur Internet. Eh bien, on parle du livre, Yves-Marie.
Eh bien oui, donc nous sommes avec Pierre-Julien Marest et Séverine Danflouze qui ont coécrit Busby Berkeley, l'homme qui fixait les vertiges, donc un livre sur le chorégraphe et réalisateur des années 30 qui vous a demandé 3 ans de travail. Et je disais aussi que le sous-titre était une allusion à Rimbaud.
Oui, parce qu'en fait on s'est dit que il a été dit, écrit un peu partout que Berkeley a inventé des formes géométriques, était un admirable chorégraphe, metteur en scène de corps transformés en formes géométriques, parfois en lettres aussi, en points. Mais en regardant ces formes danser, enfin en regardant ces formes bouger, en regardant toute la technique mise en œuvre au service de ces formes aussi, on se disait que c'était aussi un fabuleux poète des images.
Voilà, c'est, en même temps, ce vers de Rimbaud, fixer des vertiges, ça correspond parfaitement à ce que fait Berkeley. C'est vertigineux, Berkeley. Et oui, notre propos, c'est de dire Berkeley était un poète. Vraiment, ce qu'il a fait, personne d'autre que lui ne l'a fait. Stanley Donen le dit, je crois. On l'a relié avec Archimboldo. On s'est servi de textes de Barthes sur Archimboldo. C'est très très dur de parler de Berkeley. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps de décrire son art, d'essayer de le penser, parce que c'est un poète purement formel. C'est-à-dire sa poésie passe par des formes géométriques. Du montage, enfin, c'est un monteur né. Dès qu'il arrive à Hollywood, il demande, ce qui est très rare, à ce qu'il n'y ait qu'une seule caméra quand il tourne, parce qu'il ne veut pas être réécrit au montage, et il dit « I cut in the camera ». Il dit qu'avec lui, il n'y a jamais de deuxième prise.
Pas tout à fait vrai.
C'est pas tout à fait vrai, mais quand même, c'était un mec d'une précision absolument fascinante. Un perfectionniste.
Il répétait tout en miniature dans son bureau, d'abord. Enfin, il façonnait tout en miniature dans son bureau pour pouvoir convaincre après des ingénieurs de fabriquer des machines qui soient capables de rendre les images qu'il composait dans sa tête, et notamment dans son bain avec son verre de Martini Dry. Ouais.
Il y a eu un côté ingénieur, effectivement. Il a dû créer des systèmes de caméras, des systèmes de rails, pour pouvoir filmer les images qu'il avait dans la tête. Alors chez lui, on voit tout, hein, des caméras qui passent entre les jambes des filles, des caméras dans les tunnels de miroirs, on voit des trucs complètement dingues. Et
une démultiplication des êtres à l'infini, oui. On l'appelait le centupleur.
Voilà, c'est Robert Benayoun, dans Positif, qui lui avait trouvé ce surnom du centupleur. Effectivement, il éclusait des martinis. Martini qui préparait lui-même, hein, pas le martini qu'on achète au supermarché, qui était assez bien dosé. Il éclusait ça dans son bain, et c'est là que les images lui venaient, disait-il. D'ailleurs, il va y avoir plusieurs féeries aquatiques chez Berkeley, des ballets avec de l'eau, dans les piscines, etc. C'est lui qui va faire les films avec Esther Williams, là c'est un Hollywood. Et donc peut-être que le rapport à la baignoire, c'est là aussi que lui venaient ces idées de femmes liquides qui cascadent dans des piscines gigantesques.
Je sais plus, j'ai perdu le film.
Oui, il travaille beaucoup sur la perspective.
Il travaille aussi beaucoup sur la perspective, ouais, complètement. Et il fait danser aussi les objets, les instruments. Il y a aussi une fascination pour les instruments chez lui. Une manière de mettre en scène les instruments assez rare, une manière de filmer la musique assez somptueuse, ça dont il était peu question dans les quelques articles qui existaient sur Berkeley. Enfin, quelques, il y en avait quand même pas mal, mais pas tant que ça. Et finalement, quand on s'est intéressé à Berkeley, on s'est rendu compte que là aussi, il y avait pas grand chose. En France, il n'existait aucun livre sur Busby Berkeley. Et aux États-Unis, seulement deux ouvrages un peu de référence. Donc finalement, très peu de choses sur quelqu'un qui a été vraiment capital pour l'histoire du cinéma, parce que il a été repris dans les clips, dans les publicités.
Son influence, oui, hein. Même hier,
c'est ça qui est paradoxal. Il semble avoir disparu des mémoires, alors qu'en fait, il est partout. Quoi.
Il est partout, constamment.
Mais, hein. Même il y a trois jours, tu lisais Paul Auster et tu as la surprise de tomber sur
Le dernier
livre de John Donnell dans Dames, qui est vraiment pas le plus connu des Berkeley.
Ouais, dans son dernier livre, Baumgartner, il parle de Dames, effectivement, et de Johann Blondel. Et même lors de la cérémonie des Oscars, comment il s'appelle, Ryan Gosling, qui a repris un peu le numéro de Marilyn en chantant sa chanson I'm Just Ken. À la fin, il a repris le numéro d'Ames, encore, de Busby Berkeley.
Un des gros manques du livre, parce qu'en ce moment, avec mon fils, on regarde beaucoup, beaucoup de films. Et l'autre jour, on regardait Gremlins 2.
C'est pas un manque, on pouvait pas parler de tout, on a déjà coupé plein de choses.
Il y a un hommage à Dames absolument génial, avec le visage de la Gremlin. la Gremlin femme, c'est un peu comme la Schtroumpfette, il y a une Gremlin femme dans Gremlins 2. Et il y a un hommage à Berkeley, exactement la même chose que dans Dames, qu'on a loupé. Dames. On est dégoûté parce que
c'est un hommage à Dames et à Dou de la Concha, c'est dans Babes in Broadway
Mais je tiens à dire que pour Gremlins 2, c'est vachement bien quand même. C'est vraiment très drôle.
Gremlins 2, c'est très drôle, ouais.
Et mieux que 1.
Hein,
ouais, il est plus fun.
Il est plus drôle, il est plus référentiel. Le 1 est très bien, mais il est plus Tex Avery, plus il y a plein de gags partout,
voilà,
plein de sketchs.
Il
est plus cartoonesque. Il est très très drôle. Mon fils, pour lui, il me dit que c'est le meilleur film du monde avec Gremlins 1 et le troisième, c'est Blanche-Neige.
Ouais, ça change. Hein.
Enfin, tout est lié parce que dans la Gremlins 5, il regarde Blanche-Neige et les sept nains.
Oui,
ça, il adore parce que la scène
et l'invasion des profanateurs de sépulture, mais bon, ça, il l'a pas vu encore.
Mais il a quel âge ?
Il a 5 ans.
Ah oui, ouais.
Ouais, non, pas tout.
Mais oui, Berkeley, comme on disait, est vraiment partout. Alors, les plus dans nos préférés. Des personnes qui rendent régulièrement hommage à Berkeley. Il y a les frères Cohen.
Évidemment. Voilà,
la scène de rêve du Dude dans Big Lebowski.
Mais dans Ave César aussi.
Dans Ave César, évidemment. Et même dans O Brother, il y a une séquence où les mecs du Ku Klux Klan dansent. Et les frères Cohen, ils disent, c'est la rencontre du magicien d'Oz et de Nuremberg. Alors, par Nuremberg, il veut dire Leni Riefenstahl.
Et de
Busby Berkeley. Oui. Donc là ils font une espèce de mélange Berkeley, magicien d'Oz et Riefenstahl. Bon, ça, c'est l'humour des frères Cohen.
Oui, oui. Et puis, même dans Le Grand Saut, en français, ils ont appelé ça Le Grand Saut. Il y a plein de références à Busby Berkeley. Enfin, c'est
ça, Michel Gondry aussi. Parce que
Gondry énormément.
Il fait des choses qui paraissent avoir. Enfin, il paraît avoir des effets spéciaux. Alors qu'en fait, c'est des trucages faits sans effets spéciaux. Quoi,
C'est ça. Dans ses clips, en fait, pas dans son cinéma, on a cherché. Enfin, j'ai creusé parce que c'est vrai que la piste Berkeley, puis lui-même la revendique. Enfin, il en parle dès lors qu'il parle des clips et il dit son amour et son hommage et à Méliès et à Berkeley. Donc, dans ces clips complètement, The White Stripes, c'est la démultiplication des personnages. Il y a eu. Non, Kylie Minogue, c'est un autre. The White Stripes, c'est le groupe. Pour Kylie Minogue, il a fait un clip aussi pour. Je réfléchis, là, je ne les ai plus trop en tête.
Ah oui, avec une multiplication.
Il a fait un clip pour les Daft Punk aussi, qui est très berkeleyen. Bjork, évidemment. Il y a quelques références à Berkeley, même dans les clips de Bjork.
Même Steven Spielberg rend hommage à Berkeley dans le début d'Indiana Jones 2 et le Temple maudit.
Oui,
il y a une scène très. Alors, nous, on a appelé ça Buzzland. Il y a une scène qui est une scène impossible dans le
monde réel.
Dans le monde réel, au début, au cabaret à Shanghai, il y a la danseuse qui est la femme de Spielberg,
Kate Capshaw,
qui rentre dans un coquillage. Et là, on arrive dans un monde complètement féerique, avec des danseuses partout. On a complètement quitté la scène du cabaret. On est dans, nous, ce qu'on appelle un buzzland. Un buzzland, c'est le moment d'un film où on arrive, pour nous, dans l'univers de Buzz Biberclair, Buzz, tout le monde l'appelait Buzz, un truc complètement irréel et sans connexion logique avec le reste du film. Ou alors des connexions oniriques, de type onirique, comme dans Dames. Mais bah, je veux pas être trop théorique, ça va être chiant.
Non, mais j'ai appris du coup ce que c'était la perspective, enfin le plan zénital.
Zénital, c'est une plongée absolue en fait. C'est voilà. Une plongée absolue c'est... et on a appelé plan nadiral le plan.
L'inverse.
Par en dessous.
Le nadir, donc l'inverse du zénith. C'est aux États-Unis, ça s'appelle top shot, plan de haut. Donc c'est vraiment une plongée parfaite. Et en France, souvent, plusieurs techniciens qui disent qu'un plan zénithal, ils appellent ça un Buzz Biberclair.
Ah,
c'est, ok. Ouais. Faire un Buzz Biberclair.
Faire un Buzz Biberclair, c'est rester dans, en tout cas dans les, je sais pas si c'est dans le dictionnaire, mais dans les professionnels, en tout cas, ils disent, on fait un Buzz Biberclair. Tandis qu'aux États-Unis, Buzz Biberclair, pour le coup, est vraiment rentré dans le dictionnaire. Et ça signifie une comédie musicale sophistiquée. Voilà.
Ouais. Faire un Buzz Biberclair, c'est faire une comédie musicale sophistiquée.
Il y a toujours, j'ai pas du tout vu les comédies musicales récentes américaines. Il peut y avoir des allusions au cinéma de.
Alors dans les comédies musicales, c'est très varié. Enfin, ça, on les a plus ou moins recensées toutes celles. Il y a Bob Fosse. Il y a eu dans les récentes, il y avait eu un J'ai complètement oublié le nom parce qu'elle n'était pas folle. Hein. In the Eight ou un truc comme ça.
In the Eight, c'est un film qui se passe à Brooklyn.
Là, il y avait beaucoup de références à Berkeley.
On n'a pas réussi. Enfin, moi, j'ai pas réussi.
Dans Barbie, hein.
Barbie. On n'est pas arrivé jusqu'à. Il paraît qu'il y en a beaucoup.
Non, mais moi, j'ai vu la référence.
Ouais, mais j'y arrive pas.
J'ai vu l'extrait.
J'arrive pas.
Bon, d'accord, je te dis, je l'ai vu.
L'as vu
pour l'extrait pour bosser sur Berkeley, j'avais vérifié. Donc effectivement, il y a dans Barbie, il y a une séquence qui rend hommage un peu à Berkeley. Il a essayé aussi celui de Babylone, Damien Chazelle. Et il fait un petit peu hommage dans La La Land, mais c'est rapide. Il a essayé dans Babylone. C'est censé rendre hommage donc aux années 30 et donc à cette espèce de d'effervescence aussi et puis de comédie musicale un peu excessive à la Berkeley donc, mais il a surtout utilisé sa maison, hein. Voilà, on pourrait dire,
oui, enfin, c'est pas,
enfin,
c'est
moi,
pas
Babylone,
comédie,
c'est pas,
pas
fou.
De non, il n'y a pas de comédie, non, mais
il y a pas de
dans,
plan
dans, mais c'est un peu un fantôme, le Berkeley qui plane sur Chazelle, dans le sens où La La Land s'est produit par Mark Platt, qui avait acheté les droits de la biographie parue sur Berkeley aux États-Unis. Et c'est Ryan Gosling qui devait l'interpréter. Ça s'est pas fait, mais en tout cas, Platt et Gosling se sont retrouvés avec Chazelle et ont fait La Land. Et effectivement, dans Babylone, il y a toute une scène qui est tournée dans la maison historique de Berkeley, la Guest House. Donc il y a cette présence de Berkeley, presque invisible chez Chazelle. Dans les comédies musicales ou les films avec des passages très berkeleyens, récemment, il y a Olivia Wilde.
Oui, mais pas très à bon escient
non réussi.
Plus.
Alors, ce qui est très intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'il y a constamment des liens avec d'autres artistes ou des mouvements. Je pense notamment au surréalisme, en fait.
Oui.
Oui, parce que ça c'est ce qui nous marque. Hein.
Il est contemporain du surréalisme. En
fait. Il a une inspiration clairement proche des surréalistes. Il y a la fameuse, le fameux plan du visage avec cigarette retourné dans Goldie Girls of 1935.
Qui renvoie à une photo de Man Ray
explicitement, hein, une photo. d'années un peu passées, qui forcément il a dû la connaître, enfin il y a peu de chances qu'il ne la connaisse pas. C'est vrai qu'il est un peu contemporain et que Man Ray en plus a fait une incursion à Hollywood où il a travaillé sur quelques films, mais pas pour lui.
On a fouillé, on n'a pas trouvé de rencontre non. Man Ray à Berkeley.
Après... Voilà, après, nous, on a réfléchi sur ses inspirations qui étaient assez proches des surréalistes, sa manière de transformer les corps en forme, les objets, faire bouger les objets, de les rendre humains aussi, enfin, de travailler tout cet aspect-là qui était proche de l'inspiration surréaliste, de mythifier la femme aussi, hein, enfin, magnifier, mythifier. Et aussi sur les longues chevelures qui renvoyaient aussi les longues chevelures des personnages de Roman Scandals qui renvoyaient aussi à des photographies de Man Ray, un fétichisme exactement très surréaliste. Mais l'inspiration pour le rêve, hein, l'entrée dans un autre monde, on est assez proche de Magritte là.
On l'a relié avec Magritte aussi, et effectivement, tout ce qui est le monde du rêve qui a été souvent abordé par les surréalistes chez Berkeley, on y est fréquemment et on est dans des inspirations très oniriques.
Et très proche, on a l'impression de rentrer dans des tableaux un peu à la Magritte, effectivement. Et en était-il conscient? On ne sait pas très très bien. C'est vrai que Arthur Fried, qui a travaillé avec lui pour la MGM des années plus tard, quand il a quitté la Warner et qu'il est parti à la MGM, Arthur Fried disait que c'était un surréaliste sans le savoir. Bon, on est parti un peu de cette idée-là, et c'est vrai que il y a tellement de liens, au fétichisme des jambes aussi, enfin à plein de choses qui renvoient à des images surréalistes qu'on a tous en tête et qu'on connaît bien. On a essayé de faire ces rapprochements et voilà.
Moi, je serais curieux d'avoir de l'avis de Christophe. Là, il découvre le livre, mais il a consacré il y a une semaine ou deux une émission au surréalisme. Est-ce que en parcourant le livre et en voyant les photos, ça t'évoque?
Oui, mais alors je suis très étonné parce que je vous confesse que je n'ai jamais entendu parler de ce réalisateur.
Oui, mais c'est de nom, juste. Mais après,
il a été.
Visuellement, vous devez connaître, forcément. Hein. Même la pub Evian, là, des petits,
bébés qui
sont dans l'eau et qui font des formes incroyables, c'est inspiré des ballets aquatiques que Berkeley faisait avec Esther Williams et tout ça.
Ah oui, Esther Williams, d'accord.
En fait, on connaît, mais
sans identifier.
Souvent, on n'a pas le nom de Berkeley, quoi. Voilà,
c'est incroyable.
Et pour vous, c'était de revoir l'extrait de découvrir l'extrait de Dames qui a été une redécouverte de Berkeley, ou une...
Il y avait plusieurs choses. Il y avait le fait que tous les deux jeunes, on avait regardé pas en même temps, mais à peu près, on avait regardé Voyage à travers le cinéma américain de Martin Scorsese, et Martin Scorsese, qui voit un culte, je pense, à Berkeley, commence son introduction à la comédie musicale et commence par Busby Berkeley. Il commence par la manière dont Busby Berkeley faisait danser les corps et mourir les corps en dansant, puisque dans 42e rue, on a un meurtre en dansant, enfin une femme qui est assassinée et qui est...
Ah oui, je croyais que le mouvement, je pense à la fin du mouvement.
Non, elle est assassinée tout en dansant. Il y a des tentations de suicide aussi. Il y a des chutes dans les films de Berkeley au milieu de la danse. Enfin, il y a cet aspect-là très noir, en fait, bon, qui colle aussi au style Warner. C'est assez amusant parce que Scorsese, il commence son introduction à la comédie musicale dans Voyage à travers le cinéma américain en parlant des films comme si c'était que du Busby Berkeley. Enfin, c'est des films de Busby Berkeley. On a l'impression que c'est que Busby Berkeley. Et en fait, à ce moment-là, à cette période-là, 42e rue, Gold Diggers, Soft 33, tout ça, c'est des films qui co-réalisaient. Lui, il faisait les parties musicales, les numéros musicaux, et il y avait un réalisateur attitré qui s'occupait de la partie narrative, enfin, voilà. Je te laisse continuer.
Il a collaboré avec avec beaucoup de réalisateurs. Enfin, c'était des réalisateurs un peu artisans, hommes à tout faire de la Warner. Le plus talentueux d'entre eux, à l'époque Warner, c'est sans doute Melvin Leroy, qui avait fait le petit César, et Fugitive from the Chain Gang, qu'on a découvert, enfin, qui est assez réputé, mais qui est génial. Donc oui, Berkeley, dès le départ, il pose ses conditions. Quand il est sur, quand il tourne, l'autre réalisateur ne met pas les pieds sur son plateau. Il a sa propre équipe technique. Il va collaborer avec des chefs-op de renom comme Stanley Cortez ou.
Ah, il partage même pas le chef-op.
Non, parfois il a son propre. Alors souvent il y a Sol Polito qui était un peu le chef-op attitré de la.
Chez la Warner.
James Wongo, qui est un immense chef-op, qui va faire la lumière de The Man Me a Criminal, qui est le film noir de Berkeley, sans aucun passage musical, avec Garfield, qui est génial.
C'est un film qu'on connaît mal.
Qui est un film vraiment à découvrir, surtout quand on aime Garfield. Garfield, déjà, c'est un argument. C'est vachement bien. Et ça fait beaucoup écho à l'histoire personnelle de Berkeley. C'est un film sur un accident de voiture. Enfin, je vais pas rentrer dedans. C'est un film noir, mais bon. Et Berkeley a eu dans la vraie vie un accident de voiture où il y a eu, qui était dramatique, il y a eu 3 morts. Donc, on a perçu ce film comme aussi assez un peu autobiographique
Part de Berkeley. Et c'est vrai qu'on a commencé à s'intéresser à lui, donc par Martin Scorsese, par en voyant le numéro d'Ames, tout ça, on a découvert que c'était quelqu'un qui avait une carrière extrêmement longue et très diverse finalement. C'est-à-dire qu'il a eu ses années Warner, effectivement. Il termine la Warner, enfin, il quitte la Warner juste après avoir fait un film noir. Donc, déjà, quelqu'un qui a fait de la comédie musicale, dans laquelle il y avait déjà une dimension assez noire, assez sombre, et qui passe au film noir. On était assez intrigués, parce qu'on est tous les deux des grands amateurs de films noirs. Et puis ensuite, à la MGM, on découvre qu'il est sur Le Magicien d'Oz, comme beaucoup de monde, hein, parce que Le Magicien d'Oz, c'est un peu le film sans auteur. Il y a tellement de monde, on ne sait plus qui a fait le film.
On les a listés, il y a au moins 6-7 réals. Je vais pas refaire la liste. Il y a celle qu'on oublie tout le temps, c'est Blanche Souël, la monteuse de la MGM, qui peut être que reconnue comme autrice aussi du film. Oui. Elle s'est retrouvée avec un tel tunnel de rush.
Ça a dû être compliqué, effectivement. Et donc même sur Le Magicien d'Oz, il a fait une séquence qu'on peut trouver d'ailleurs sur Internet, mais qui a été coupée au montage. Et c'est comme ça que L.B. Mayer l'a engagé.
Victor Fleming l'a trouvée fabuleuse. L'a trouvée fabuleuse, mais bon, on ne sait pas trop pourquoi elle n'a pas été gardée. Mais il y a ce bout de film qu'on trouve sur Internet. La séquence qui est très très bien. Hein. La séquence réalisée par Berkeley pour Le Magicien d'Oz.
Et le livre est construit en deux parties. Alors, il y en a une, c'est le roman de Busby Berkeley, qui serait plutôt la bio. Et ensuite, il y a les commentaires, qui seraient l'œuvre. Comment vous êtes partagé le travail ?
Alors, on avait l'idée de quand même pas oublier. Comment dirais-je ? Quand on s'est intéressé à Berkeley, en fait, c'est devenu une sorte d'enquête. Une sorte d'enquête aussi sur Hollywood, notre cinéphilie, essayer de comprendre ce que c'était que ce Hollywood des années 30. Finalement, Broadway aussi, des années 20, puisqu'il fallait remonter pour comprendre Berkeley, savoir d'où il venait. Il venait d'une famille d'artistes. Sa mère était comédienne, son père était metteur en scène. En même temps, il voulait surtout pas qu'il travaille dans le monde du spectacle. Donc ils ont tout fait pour le pousser du monde du spectacle, le repousser. Ils l'ont inscrit dans une école militaire. Il est parti à l'armée où il a formé justement
de grands ensembles d'hommes, parfois 1000, 2000 soldats. C'est là qu'il va apprendre à diriger c'est là qu'il apprend les rudiments de la mise en scène, enfin en tout cas de la direction d'acteur, même si c'est pour le coup c'est une direction de corps.
C'est même
assez drôle dès le départ. Oui, bon, on a eu la chance. Il y a une bio très très fourni aux États-Unis, qui s'appelle Buzz, de Jeffrey Spivak, qui a beaucoup servi à recherche. On s'est pas mal servi de, parce qu'on avait, la bio était bien, mais un peu triste parfois, la bio de Spivak.
Ah, surtout
c'est
très peu.
C'est la bio, machin, et la fin de Berkeley, c'est un peu la déchéance, il y a quasiment 100 pages dessus. Nous, on a abrégé, quoi. On voulait pas, c'est notre héros, Busby, on voulait pas le voir souffrir. Donc, la fin, on va un petit peu vite, parce qu'on veut pas rentrer dans les détails.
Oui, puis il y avait quand même assez peu de recul, assez peu de réflexion. Enfin, à notre sens, hein. Après, c'était sans doute volontaire de la part du biographe. Et nous, on n'avait pas envie de faire une biographie non plus, mais on voulait pas faire l'économie de rappeler qui était Berkeley, d'où il venait, qu'est-ce qu'il avait fait. Donc,
En même temps, voilà, pour rendre un peu ça. Un peu moins aride, la biographie. J'ai retrouvé un bouquin Movie Land de Jérôme Charine, qui a aussi écrit un autre livre qui s'appelle C'était Broadway. C'est deux livres
c'est
assez formidables.
C'était Broadway, c'est génial.
Qui sont édités édité en français.
Ouais.
Alors, les deux. C'était Broadway, on le trouve encore. Movie Land, il est.
Movie Land moins. C'était Broadway, c'est une étude sur Broadway, le Broadway de la fin des années 20, avec les gangsters, avec tout ça. Et ça nous a donné l'envie de planter un décor pour rendre ça un peu plus vivant, le monde de Berkeley. Donc oui, on croise le baseballeur Babe Ruth, même s'il n'y a aucun rapport, mais on s'est pas mal inspiré de Charine. On voulait recréer le cadre de l'Hollywood de 1930, du Broadway de la fin des années 20. De 30 à 34, on a fait beaucoup de recherches biographiques sur cette époque, qui est aussi l'âge d'or de Berkeley, c'est là où il a réalisé ses meilleurs films. On a voulu faire revivre l'Hollywood du studio system, surtout avec la MGM et la Warner, hein, qui sont en même temps les studios les plus emblématiques, les plus célèbres, même s'il y a plein d'autres studios comme la RKO, machin, qui sont les plus fascinants, je pense, à cause aussi de la personnalité de Louis B. Mayer et des frères Warner. Et on a un peu enquêté, on voulait comprendre. Parce qu'en France, bon, on a beaucoup ces trucs, la politique de l'auteur, tout ça, etc. On voulait comprendre comment concrètement on travaillait dans les studios. Donc,
comment
ça se faisait.
Dans
un bouquin de Courceaudon, j'ai trouvé une notion vachement intéressante, le style de studio. Parce qu'on s'est aperçu au bout d'un moment que les studios avaient toujours les mêmes chef-op, les mêmes machins. Bref, là, je m'attarde un peu trop sur...
Non, mais et comment ce chorégraphe devient un auteur d'une certaine façon? Parce que au départ, il est juste dance director, enfin, il est juste chargé de s'occuper des danses. Et en même temps, dès le début, on va lui laisser presque carte blanche assez vite pour faire un peu ce qu'il veut avec la caméra. Enfin, les caméras, au départ, on lui en donne quatre, donc lui, il en veut qu'une. Hein, c'est ce que Pierre-Julien expliquait tout à l'heure. Mais très, très vite, il a une vision très singulière, particulière. Il va mettre en œuvre sa vision des choses et qui a été pas mal copié par d'autres chorégraphes un peu stars de la même période, la bande des quatre, là on les appelle, dont Bobby Connolly et tout ça. Mais il a été un peu copié, mais nul n'arrive à être aussi merveilleux et magique que Busby Berkeley. Donc on est parti de là. Et en même temps, évidemment, on voulait s'attaquer, bien sûr, à sa filmo en entier, tous les films auxquels il a pu participer ou qu'il a fait en intégralité, puisqu'il a tourné des films aussi en intégralité, dont certains non musicaux, certains c'est un peu des, on sent que c'est un peu des films de commande à la MGM notamment,
c'est toujours des films
de commande. Non mais je sais bien, mais je veux dire, on sent que c'est des films dans lesquels il a peu de marge de manœuvre et peu d'un...
on va pas trop rentrer dans les détails, mais il va être beaucoup moins libre à la MGM qui a pu l'être à la Warner. La Warner, c'est là où il est le plus libre pendant 2-3 ans, il fait exactement ce qu'il veut et c'est là où il produit ses plus grands numéros.
Voilà, et donc on s'est intéressé à ça aussi, et donc aux thèmes qui reviennent, qui parcourent l'œuvre de Berkeley. C'est pour ça qu'on a fait un peu commentaire, commentaire aussi parce qu'on décrit pas mal de numéros, enfin avec nos mots, mais on décrit un peu certains numéros de Berkeley. Et puis on a aussi voulu ne pas oublier rendre hommage à ces filles qui reviennent.
Oui, il y a 35 chez pages
Berkeley, des chorus girls, voilà, des danseuses un peu chanteuses, enfin elles font les voix de fond, enfin du chorus. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'il reprend, enfin, c'est là-dessus hein, qu'on est parti de là. On s'est rendu compte, il fait ce qu'il appelle Parade of Faces, c'est-à-dire qu'il leur accorde à chacune d'elles trois minutes, j'exagère, 3 secondes d'éternité ou 2 secondes d'éternité. Et il passe d'un visage à l'autre et il s'attarde un petit peu sur leur visage en très gros plan. Et ces filles, en fait, elles reviennent de film en film, c'est-à-dire comme s'ils travaillaient un petit peu avec la même troupe. Alors, en France, à Verti, non, c'est pas Verti, quand il est interviewé, à Verti présente l'émission.
Par Labarthe, Labarthe.
Voilà, quand il est interviewé par Labarthe, Andrés Labarthe, il, pour cinéaste de notre temps, il dit qu'il a 16 filles spéciales, en fait, c'est pas tout à fait 16, mais, et puis ça tourne. Mais effectivement, elles reviennent un peu de film en film, et ils prenaient souvent les mêmes danseuses, et donc on a voulu leur donner leur instant d'éternité aussi dans le livre, en cherchant ce qu'elles avaient fait d'autre, quelles avaient été leur vie, parce que ce sont des anonymes totales, enfin... Ouais. On arrive à les retrouver sur IMDb, à retrouver leur nom, mais voilà, elles ont laissé très très peu de traces dans l'histoire du cinéma, et c'était histoire d'imprimer une trace, donc on a fait une enquête aussi sur ces filles.
Mais voilà. Ces filles me semblent assez respectueuses, il y a pas de, je les trouve pas, elles sont pas ultra érotisées en fait, elles sont là pour danser, elles doivent être en maillot de bain, c'est pas.
Oui, mais en fait, Berkeley, il était un peu sous la houlette de Ziegfeld. Enfin, il s'inspirait beaucoup des numéros de Ziegfeld. Bah,
Florent Ziegfeld. Des Ziegfeld Follies, qui était donc un impresario à New York, producteur de spectacles, qui s'était inspiré des Follies parisiennes, les Folies Bergère, les Folies Pigalle. Donc, il avait un peu importé aux États-Unis cette tradition française de filles légères sur scène, mais il le faisait avec beaucoup d'élégance, Ziegfeld. Il a eu très rapidement des imitateurs, dont Earl Carroll, où là les filles étaient moins habillées. Et Berkeley a commencé là, à Broadway, en bossant pour Ziegfeld, en bossant pour Carroll. Et c'est là qu'il s'est, il y a eu dans son expérience, il y a eu les corps de soldats, et il y a eu Broadway, où il a vraiment appris la mise en scène. Par le théâtre d'abord, c'est là qu'il s'est formé. Donc avec une tradition quand même un peu érotique.
Parce que c'est, oui, voilà, chez Berkeley c'est paradoxal, c'est pour ça qu'il est un peu proche du surréalisme aussi, parce que c'est à la fois des corps érotiques, des corps qui ne sont plus que des formes tout d'un coup, donc désérotisés, hein, tout d'un coup ils sont complètement réifiés, on pourrait dire. Et en même temps, il y a beaucoup d'humour chez lui derrière tout ça. Enfin, il s'amuse aussi avec ça. Et il s'amuse à tourner en dérision aussi notre regard de voyeur, enfin, et le sien propre, j'imagine. Enfin, il y a un jeu un peu perpétuel qui fait que il est assez révolutionnaire, on pourrait dire.
Mais sur la réification, il a été beaucoup attaqué, non? Surtout par les féministes états-uniennes dans les années 70, où son film a été très critiqué. Son cinéma a été très critiqué. On voulait pas non plus ce
nom. Oui, mais dès lors qu'on montre des corps un peu dénudés, ça n'est pas, hein, de toute façon. Alors qu'en fait, il faisait la même chose. On a la caméra passe sous les jambes des filles, c'est vrai, mais elle passe sous les jambes des hommes aussi. Enfin, voilà, c'est les corps qui l'intéressent, c'est les formes, et c'est losange, c'est triangle, c'est formes rondes. Enfin, tout ça le fascine. Il a envie de jouer avec tout ça. Il a envie de s'amuser aussi avec tout ça. Des fois, il y a une dimension érotique, mais qui est souvent un peu cartoonesque. Enfin, quand on a le petit bonhomme, là, Billy Barty, l'acteur Billy Barty, qui est en train d'ouvrir un rideau.
Billy Barty, qui était un un acteur nain qui joue souvent les enfants, les poupons presque.
Oui, les poupons, c'est-à-dire les cupidons aussi des fois.
Voilà, chez Berkeley, donc qu'on retrouve dans quelques films de Berkeley. Et oui, il y a des sketchs où Barty cherche deux policiers déguisés en poupons, machin. Il atterrit quand même dans une autre scène, sous une jupe de fille.
Oui, tout à fait, mais en même temps, c'est dans la même séquence musicale, c'est dans Gold Diggers of 33. Il ouvre un rideau où les filles sont en train de se dénuder pour se rhabiller parce qu'il y a eu la pluie et tout ça. Et en fait, le temps qu'il ouvre le rideau, et ben, elles sont déjà rhabillées, donc on n'a rien vu. Enfin, il y a cette espèce de jeu aussi sur notre tentation du voyeurisme. Il y a quand même une dimension humoristique de Berkeley qu'il ne faut pas oublier, qui n'est pas, voilà, qui est pas que du regard pervers.
Vous êtes venu justement avec un extrait de Goldie...
Oui.
Girls 33.
Goldie Girls of 33, oui.
Wearing the Money. Yeah.
Gone are my blues and gone are my tears. I've got good news to shout in your ears. The long-lost dollar has come back to the fold. With silver you can turn your dreams to gold. Oh, we're in the money, we're in the money. We've got a lot of what it takes to get along. Oh, we're in the money, the sky is sunny. Oh man, depression, you are through, you done us wrong. Oh, we never see headline about red line today. And when we see the landlord, we can look that guy right in the eye. Oh, we're in the money. Come on, my honey. Let's lend it, spend it, send it rolling around.
Boy, we're in the money. I said we're in the money. We got a lot of what it takes to get along. So we're in the money. Look up, the skies are sunny. Oh, man, depression, you are through. You've done us wrong.
We're in the money, oh, I'm on my knees.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne, partout ailleurs, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres et on parle aujourd'hui des éditions Marest avec Séverine Danflous et Pierre-Julien Marest. Et c'est Yves-Marie Maé qui anime l'émission. À toi Yves-Marie.
Ben, on vient d'écouter donc un extrait de la comédie musicale Gold Diggers. Vous vouliez en dire un mot sur...
C'était sympa de finir Berkeley avec un plan sur Ginger Rogers dans Gold Diggers, les chercheuses d'or de 1933, en
de
français,
Mervyn
LeRoy, qui est un des qu'on trouve assez facilement et qui est un des meilleurs Berkeley.
Oui, et qui est cité dans Bonnie and Clyde. Dans Bonnie and Clyde, ils se retrouvent au cinéma d'Arthur Penn et ils vont voir Gold Diggers en 1933 et Ginger Rogers en train de chanter. Ça, c'est un numéro de Berkeley. Voilà.
Et on va parler des éditions, enfin des livres récents, ouais. Du coup. Alors, il y a le troisième volume et peut-être le dernier des écrits d'Hitchcock.
Oui. On a retrouvé d'autres textes, mais il faut savoir s'arrêter un jour. Donc on a c'est le troisième volume de textes, soit inédits en français d'Hitchcock, soit de textes devenus difficiles à trouver dans d'entretiens qui avaient déjà été traduits. Et le gros morceau de ce troisième volume, c'est un très très long extrait de séance de travail entre Hitchcock et Tippi Hedren à l'époque de Marnie, qui est aussi c'est le film culte de Séverine. Donc quand j'ai vu que ce truc existait, j'ai dit faut qu'on le chope. Et voilà, c'était un cadeau de Saint-Valentin.
D'anniversaire, je m'en souviens plus.
D'anniversaire,
ça met du temps à se faire un livre, donc j'ai pas eu mon cadeau tout de suite.
C'est un texte très très intéressant qui montre vraiment comment il travaillait avec ses actrices. On va rapidement dessus parce qu'il y a eu beaucoup de choses sur la relation entre Hedren et Hitchcock. On en parle un peu dans la préface. Mais là, c'était pas notre propos. Notre propos, c'était de parler de l'œuvre et de montrer comment Hitchcock travaille concrètement. Et
oui, comment il avait déjà tous les plans en tête, comment il avait déjà la construction et la position de l'actrice, enfin, comment il voulait qu'elle évolue. Elle lui pose quelques questions d'ordre psychologique et lui, il répond plutôt d'un point de vue technique, de plan, de où elle va se placer, comment elle doit bouger son visage, quel regard, vers où elle dirige son regard. Enfin, il a des indications très, très, très précises. Des fois, il va vers la psychologie, mais c'est assez rare. Enfin, il fait un peu fi de tout ça et elle l'écoute et voilà, elle questionne deux, trois fois, plusieurs fois le déroulé du film. Et on voit qu'Hitchcock a vraiment déjà le film en tête. Là,
on voit à quel point toutes les expressions sont millimétrées, décidées, pensées. Enfin, on voit vraiment la manière dont il travaille. Et c'est vraiment impressionnant. C'est un recueil aussi où on a traduit des échanges épistolaires entre Hitchcock et Vladimir Nabokov, que Hitchcock voulait embaucher comme scénariste. Donc Hitchcock soumet à Nabokov des projets de films, deux projets de films qu'il a en tête depuis longtemps. Et évidemment, Nabokov, qui est déjà aux États-Unis à l'époque, lui répond avec deux projets de films à lui, mais où c'est plutôt la Russie qui serait l'honneur que les États-Unis, même si Nabokov était critique. Donc il y a ça, il y a un texte sur le visage le visage de Garbo, ouais, qui est pré-Bartien à mort. C'est un texte de 32. Où c'est très drôle, on a l'impression que Hitchcock en même temps annonce en même temps les mythologies de Roland Barthes et Benjamin aussi sur la fabrique du visage. Enfin, moi je trouve qu'il y a des reflets benjaminiens.
Je m'en rappelle plus, il est déjà réalisateur en 32.
Il y a des entretiens avec Truffaut, entretien avec Rui Nogueira. Et il y a un texte pour boucler, un texte, alors là, il n'est pas d'Hitchcock, mais je voulais absolument le publier, un texte de Gérard Guégan, un texte assez formidable. Gérard Guégan, qui est éditeur et écrivain, éditeur qui est, les autres éditeurs se souviennent, de Libertaire se souviennent, peut-être qu'il est aussi passé par Champ Libre, avant de monter les éditions du Sagittaire. C'est un éditeur contre le Sagittaire, tous les noms de collection commençaient par contre. Contre ceci, contre cela. Et Guégan, donc, rencontre Hitchcock pour les nouvelles littéraires. Il se retrouve à l'interviewer avec un prêtre. Et Hitchcock fait une blague absolument dingue. Devant le prêtre, il dit en gros, Guégan le dit bien mieux que moi, mais il dit, faut imaginer que chaque fois qu'on voit il y a une femme et un homme dans un ascenseur dans un de mes films, ils sont cadrés comme ça, mais il faut imaginer que la femme a la main sur la braguette de l'homme. Il dit ça devant un prêtre. Bon, ça c'est l'humour plus érotisé d'Hitchcock, mais un jour, il faudra s'amuser à revoir toute l'œuvre d'Hitchcock en imaginant que chaque fois, hors cadre. Mais ça dit aussi très bien qu'il y a du cul partout chez Hitchcock, ce qui est vrai. L'érotisme chez Hitchcock est presque plus présent que chez Berkeley, où on le voit plus à l'écran. Chez Hitchcock, ça transpire le sexe partout. Enfin, très souvent. Dans Marnie.
C'est assez fin. C'est une sexualité qui peut intéresser les femmes, en fait.
Marnie, c'est un film.
Je sais pas si je dirais ça, ça intéresse tout le monde. Hein. C'est homme ou femme.
Des fois, si c'est une pornographie, c'est trop explicite, ça peut ne pas intéresser moins les femmes, quoi.
Ouais.
La dimension. Après, il y a aussi la dimension extrêmement provocatrice d'Hitchcock, puisqu'il est devant un prêtre.
Oui, bien sûr.
Et voilà, il s'adressait. Il avait tendance à changer ses réponses selon ses interlocuteurs.
C'est ce qu'on voit au fil de tous les interviews qu'on a publiées. Ouais. C'est qu'il adapte ses réponses à ses interlocuteurs. Ce qui est le plus connu, c'est le Hitchbook, le Truffaut,
les entretiens avec Truffaut,
le Truffaut, hein. Hitchcock, mais on apprend plein de choses sur la manière de voir d'Hitchcock à travers ce recueil.
Oui, non, je sais plus comment il s'appelle, le réalisateur américain qui faisait des entretiens aussi, qui a fait un entretien avec Hitchcock.
Bogdanovich.
Ouais, et puis il dit dans le texte qu'il est fort possible qu'il y ait des choses qui sont un peu fausses dans ce qu'il dit ou ce qu'il affirme. En tout cas, il va dans le sens de Truffaut, quoi, de la question.
Bien sûr. Il lui sert.
Il aimait bien servir la soupe.
Il est extrêmement rusé. Non seulement c'est un immense cinéaste, mais ce que j'admire chez lui, c'est la dimension stratège. Il y a un très 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 beau papier qui est paru à la mort d'Hitchcock, c'est Godard dans l'IB, qui est interviewé par Julie, et il compare, il dit qu'Hitchcock était unique comme une étoile, et il compare Hitchcock au Tintoret. Il dit le Tintoret, quand il y avait un marché à prendre à son époque, il mettait tous ses assistants pour choper les marchés. Hitchcock, il sait survivre en tant qu'artiste. Souvent en France, on dit l'art et l'argent, surtout pas, quoi. C'est vachement intéressant la manière dont Godard aussi, à sa manière, va survivre et continuer à faire des films jusqu'à la fin. Hitchcock veut continuer à faire des films aux États-Unis. Donc il faut de l'argent, il faut que les films marchent. Et en même temps, il veut faire ses films à lui, son œuvre. Et moi,
il joue sur des compromis
En fait, il fait quasiment peu de compromis, quasiment pas de compromis sur la nature de ses films et sur ses scénarios, jamais. Mais il trouve des stratégies pour rester sur le devant de la scène. Il va le rester extrêmement longtemps, en termes publicitaires, et en termes de présence médiatique. Il accepte quasiment tous les entretiens qui lui sont proposés. Et c'est pour ça qu'on a une telle manne d'entretiens inédits ou de textes inédits. Et il joue avec ses... Donc ça fait presque partie de l'œuvre. Moi, je suis un conditionnel d'Hitchcock. J'admire l'artiste et l'homme. peut-être pas l'homme quand il est fou, amoureux et de manière un peu morbide de Tippi Hedren. Mais le stratège qui va assurer à l'artiste sa survie, quoi.
Oui, apparemment, il était perçu comme un peu une icône pop à la phase de son vivant.
La maison est née avec une traduction d'un texte inédit qui était un entretien d'Hitchcock par Warhol. Donc c'est vrai que associer le pape du pop art et le maître du suspense, ça fait au départ, c'est un peu étonnant et c'est très très drôle de voir à quel point Warhol est fasciné par Hitchcock. Plus par des actrices comme Talula Benkhead, qui était très camp comme femme, mais Warhol une vraie et Hitchcock, est-ce qu'il est pop, je sais pas, mais en tout cas il fascine le pape du pop art.
Oui, c'est bon, parce que Warhol en dit plus sur lui-même en fait finalement que
oui.
Que par ses questions, quoi, que Hitchcock par ses réponses. Ouais. Ouais. Et l'heure tourne, on va écouter le prélude de Marnie, on va enchaîner avec un extrait de RMN, du roumain.
Christian Mungiu.
Christian Mungiu, qui a eu, pas pour Simla la Palme d'Or, je ne sais même pas si le film était à Cannes, mais...
Et ben, étonnamment, il RML, n'a il rien, je crois qu'il n'a rien eu sur RML.
Il était à Cannes, mais il
n'a
rien.
Alors que...
Ah oui, c'est un film super bon.
Il a eu la Palme d'Or pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Il a eu, pour deux films, un prix de la mise en scène, un prix du scénario. Il n'a rien eu pour RML, et bon, on va en reparler.
Protect your wonderful biodiversity.
Este aici ca să ne ajute cu recensământul populației de urs. Dar este cineva traduce?
Este plătit pentru asta.
Nu știu, probabil.
Please.
Cu cât este plătit? Să ne numere urșii.
Păi, nu știu. Nu plătim noi.
Păi nu, dar zic așa ca situație. Noi aici n-avem de lucru, că exploatația tot așa este închisă.
Ecologic.
Animale dau iamar la stâni. Iar dânsul e plătit să ne numere urși. Dar de ce nu numără urși la dânsul în țară?
Corect. Păi nu mai au urși, domnule. I-au omorât pe toți să-și facă autostrăzi.
Și lupii la fel.
Asta am și vrut să spun. Adică dânsul și după ce s-au dezvoltat ne explică nouă ce frumos e să fim grădina zoologică a Europei.
L-au făcut și în Africa.
Numai noi nu suntem sălbatici.
Vă rog frumos, îl lăsați să vorbească.
Merci. I just want to say, today people are free to move wherever they want. They can be stopped.
Am văzut că la Paris pe stradă sunt mai mulți negri și arabi decât francești, că ți-e și frică să mai mergi cu metro.
But these people are French also.
Băi, dacă ați fi în colonia acum, n-a spălați-vă cu ei pe cap, dar n-a ce mic avem aici.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, on est dans l'émission Les Oreilles Libres, et on parle des éditions Marès, et on vient d'écouter un extrait de l'excellent film de Christian Mungiu, RMN, avec, vous allez nous expliquer ce qu'on vient d'écouter en roumain, quel plaisir d'entendre du roumain.
Il n'y avait pas que du roumain, il y avait de l'anglais,
c'est le dernier film de Christian Mungiu, là, dont on vient de publier Une vie roumaine. C'est un film assez très politique, comme Une vie roumaine où Mungiu revient sur l'histoire de sa grand-mère qui est née en Bessarabie, donc c'est une région qui est actuellement en Moldavie, Et il raconte l'histoire d'une terre, en fait, par la voix de sa grand-mère, d'une terre qui va changer sans arrêt de propriétaire, entre guillemets, qui va être tour à tour roumaine, russe, enfin soviétique à l'époque. Et c'est un livre très sec, très dur par moment. Il y a des scènes, entre guillemets, c'est assez visuel. Enfin, on rentre assez bien dedans, enfin très bien dedans. Il y a des scènes, je sais pas si j'ai des voiles, mais c'est une scène de massacre dans une forêt qui est très très rapide, de juifs qui se font tuer par un cousin de la grand-mère de Munchou qui doit conduire un camion, enfin il les tue pas, il conduit un camion pour les nazis et ils amènent les juifs. Voilà, c'est un peu comme dans un film de Munchou, comme dans Ramen. Il y a une scène absolument terrible de repas, où une femme qui parle musique avec deux personnes, deux Pakistanais qui sont venus travailler dans un petit village de Roumanie, ce qui provoque un émoi terrible dans le village. On dit qu'ils ont les mains sales, on veut pas manger de pain. Fabriqué dans la boulangerie par eux, ça crée un truc complètement terrible. Donc il y a cette scène de repas où cette femme, elle est bienveillante avec ces deux hommes, et la scène de repas est interrompue par un jet de Molotov. J'ai vu ça, j'étais scotché, quoi. Munchou, c'est ça. Le film commence déjà. Le héros du film, si on peut dire, au début du film, travaille en Allemagne. Il est roumain, donc. Il se fait traiter de gitan par un, je sais plus qui. Bam! Un coup de boule, un coup de poing. C'est sec, rapide. Je sais pas comment il fait, moi je suis scotché. J'ai l'impression de prendre le coup de poing et le jet de Molotov, j'ai l'impression de le ressentir aussi quand. Enfin, c'est. Et ben son texte, c'est un peu ça aussi. On se prend des trucs assez horribles, parce que sa grand-mère a quand même.
En même temps, c'est un petit-fils amoureux de sa grand-mère qui veut lui rendre sa voix. Voilà,
qui veut lui.
Et qui veut raconter aussi cette histoire familiale qui le resitue dans une histoire, son pays.
Et de même que c'est vraiment l'autre bout de l'Europe. C'est là actuellement la Bessarabie, donc c'est en Moldavie, juste au sud de l'Ukraine. Et Munchou, la question de l'Europe, elle est dans RMN et dans. Et il nous offre à voir l'Europe. De l'autre côté de l'Europe, quoi. Et ça fait pas de mal, parfois. Là, dans la scène qu'on a passée, de RMN, c'est une scène de conseil municipal. Déjà, c'est un morceau de bravoure cinématographique, c'est un plan séquence qui dure quasiment un quart d'heure, presque fixe, je crois, avec, une quarantaine, cinquantaine de personnes à l'écran, beaucoup de figurants, mais des acteurs. Déjà pour réaliser ça et que ça marche aussi bien, parce que moi quand j'ai vu ça, j'étais happé par la scène. Donc c'est un conseil municipal qui est interrompu. Il y a un Français qui est là, qui travaille pour une ONG et qui est venu compter les ours. Et il y a un mec qui dit mais qu'est-ce qui vient nous emmerder là, machin. Et puis il y en a un autre qui fait il vient compter nos ours, c'est sûr. Chez eux, ils les ont tous tués et tout pour construire leurs autoroutes. C'est très très dur, c'est très violent, mais ça rappelle aussi quelques trucs quoi, aussi sur la manière dont l'Europe occidentale, avec ses ONG, avec ses machins, avec sa comment dire, sa générosité, machin.
Oui, il a tendance à juger les autres.
Voilà, et donner des leçons, machin. Surtout que le mot colonie apparaît aussi dans cette scène. On va pas faire une analyse de RMN, mais. Ça donne à penser l'Europe
autrement
et ça fait pas de mal.
Et après, c'est quand même il rend hommage donc amoureusement à sa grand-mère à toute sa lignée familiale et sa grand-mère qui parle elle-même de sa mère avec cette femme qui avait tant de difficultés à se départir des choses et tellement de difficultés que pour elle, c'est impossible de quitter sa maison parce qu'il faudrait abandonner tout ce qu'elle a emmagasiné, gardé, conservé.
C'est une
conservé.
Femme qui accumule énormément d'objets, des tapis, qui parfois fait des trucs complètement incompréhensibles. Elle va, elle veut des billets russes, donc elle va changer tout son or pour des billets russes qui, trois mois après, valent plus rien. Mais elle garde les billets russes toute sa vie. C'est une femme qui accumule beaucoup et ça va porter tort à la famille de Moonju, dans le sens, à un moment, il faut partir parce que les Russes arrivent. Il faut aller dans ce qu'ils appellent la Roumanie de l'intérieur, donc quitter la Bessarabie pour échapper aux Soviétiques. Et là, ils ne partent pas finalement parce que elle veut garder, la mère de la grand-mère de Moonju, la grand-mère veut garder ces objets. Et ça va provoquer le fait qu'ils vont vivre sous qu'ils vont avoir une traversée du siècle assez terrible, quoi.
Oui, en même temps, on sent bien que ces objets, c'est un peu plus que des objets, c'est une manière de s'ancrer quelque part, alors que tout est en train de se disloquer autour d'elle. Enfin, tout ce pays est en train de se disloquer, les frontières sont flottantes, on ne sait jamais de quel côté on se situe. Et c'est vrai que les objets, ça l'ancre.
Comme c'est assez visuel, j'ai envie de parler de scène. Il y a une scène complètement dingue où il y a tout un passage qui est consacré au grand-père de Moonju, où c'est presque des poupées russes, mais la grand-mère donne la parole au grand-père de Moonju, et qui est soldat, et à un moment, il se retrouve à côté des nazis pour se battre contre les Russes, et puis la nouvelle tombe à la radio, les alliances sont changées, et ils doivent se battre avec les Russes contre les nazis qui sont dans les mêmes tranchées qu'eux. Donc c'est des trucs comme ça qui arrivent, et qui marquent, comme dans son cinéma. Donc je relis, c'est évidemment plus que... Moonju a voulu donner, c'est déjà le geste d'un petit fils assez émouvant, mais il y a aussi, c'est une partie de son œuvre, clairement. Hein. Il n'a pas fait que retranscrire, il a monté, il a... Dans quelle mesure, je ne sais pas.
Oui, puis il raconte aussi sa grand-mère à la fin. Enfin,
voilà,
sa grand-mère,
il prend la parole, il prend la parole dans un long post-scriptum où il raconte, lui, de son regard, sa vie auprès de ses grands-parents. Et voilà, ça parle donc ça parle de Roumanie, mais ça parle d'humanité avant tout, comme dans son cinéma, et de thèmes beaucoup plus profonds, quoi.
Et vous savez s'il compte en faire un film de ce roman?
Je crois que oui. Ouais. Il est en série. Il aimerait en faire une série.
Ah ouais, série, oui. Ah ouais.
Ça peut être qu'intéressant.
Et je ne sais pas si vous voulez évoquer d'autres livres récents que vous auriez édités.
Moi, je voulais savoir, il va venir en France, Christiane Moonju?
Oui, Christiane. Ah oui, alors que je ne dise pas de bêtises sur les dates, le 26 juin, mercredi 26 juin, donc très bientôt, il va présenter son livre au cinéma du Panthéon. Et ça sera suivi à 18h30. Et ça sera suivi par une projection de RMN. Et le vendredi 31, il y aura une rencontre avec une autrice roumaine qui a aussi écrit un livre sur la Bessarabie qui vient de sortir. Loreina Beitanouche, j'ai peur de mal prononcer son nom. Il y aura une rencontre croisée donc entre Christian Moonju et cette autrice à la librairie La Trappe-Cœur à Paris à 20h le vendredi 28 juin, donc. Voilà.
Et donc, oui, si tu avais d'autres parutions, tu voulais...
On est à 60 livres, donc je ne veux pas en privilégier...
Ah non, mais récent, en fait.
Récent, qu'est-ce qu'on a publié? On a publié Tom Cruise, un essai sur Tom Cruise, très, très drôle, très malin et très intelligent, d'Olivier Maillard. Un beau portrait de Constance Bennett, signé Alexandre Piletich, sur Constance Bennett, qui était donc une actrice des années 30, la première actrice phare de George Cukor, avant Catherine Hepburn, etc. Et accessoirement aussi la sœur de John Bennett, actrice plus... Donc, on se souvient mieux à cause de Fritz Lang.
Schrader
et Fredkin, qu'on a publié en novembre. Ouais. Donc de Jérôme Destet sur Paul Schrader et William Fredkin par Jean Touris. Deux essais, donc. On a parlé du Fredkin tout à l'heure. Et un essai à la Jérôme Destet sur Schrader, les chambres noires de Paul Schrader, où il revisite son œuvre comme autant de chambres thématiques.
Bah c'est bien, je vous remercie.
Merci, Marie.
Alors je rappelle que les éditions Marest ont enfin, une esthétique très, très particulière qu'on peut retrouver. Donc, alors, dans les bibliothèques, en tout cas, vous les trouvez
facilement.
Facilement, ouais, quand même, la tranche
aussi.
Sur la tranche, ouais, qui est cool, bleu avec avec un logo. Aussi, un sigle d'obturateur. Eh bien, si vous voulez vous les procurer, peut-être le plus simple, c'est d'aller sur le site.
Voilà, en librairie.
En librairie aussi, oui.
En librairie, on va travailler, ils sont en stock dans plusieurs librairies. Mais sur Internet, oui, a priori, ben, on ne travaille pas avec Amazon. Donc c'est difficile de se les procurer sur Amazon. Faut mieux passer par le site qui est Marest Éditeur.
Eh ben merci à vous. On va se quitter avec un morceau d'un groupe roumain des années 70, enfin de la fin des 70, qui s'appelle Rodion G.A, qui faisait un rock progressif très influencé par ce qu'on appelle le krautrock, c'est-à-dire le rock allemand, avec un morceau qui s'appelle Batranul Kais.
Eh ben merci à vous,
merci
à vous trois.
Merci
Marie. La semaine prochaine, nous recevons Anjem Chaton. Et à 17h30, les amis de Radio Esperanto, Guy Hubert et Volito. Allez, salut, à la semaine prochaine.
Ah oui, t'avais une émission aussi sur Radio Libertaire.